La pureté de cœur est une chose magnifique. C'est une affirmation, je commence par ça. Parce que quelque chose de pur est quelque chose qui existe dans son essentialité, non altéré, non contaminé, non abîmé. Nous aimons instinctivement l'idée de pureté, je pense. Nous la recherchons de plus en plus dans l'alimentation, dans notre façon de consommer, et nous sommes de plus en plus sensibilisés au fait que notre environnement, et en particulier sans doute nos océans, sont souillés, ont perdu leur pureté originelle. Là où nous avons par contre perdu un peu la notion de pureté, c'est quand elle nous concerne, nous. Pourtant, cette dimension est omniprésente dans la Bible, et très tôt dans l'Ancien Testament, on va faire des distinctions entre ce qui est pur et ce qui ne l'est pas, entre autres en ce qui concerne les aliments que l'on peut consommer ou pas, afin justement de ne pas devenir impur. Encore aujourd'hui, les juifs pratiquants font très attention à ne rien consommer qui pourrait les souiller. Du temps de Jésus, les souillures rituelles constituaient le centre de la vie religieuse juive. Éviter ce qui pouvait souiller leur être constituait la plus importante discipline spirituelle de l'époque. Que la source d'impureté ait été une chose, ou même quelqu'un. En effet, le contact avec un animal décrété impur par la loi de Moïse, un cochon par exemple, ou un moucheron, une petite mouche, mais aussi le fait de toucher une tombe pouvait rendre nos amis juifs rituellement impurs. Le contact avec un non-juif pouvait également souiller le bon juif religieux, soucieux de plaire à Dieu, mais également le lépreux, une prostituée, un collecteur d'impôts, ou toute personne ayant une vie non conforme aux exigences de l'intelligentsia religieuse de l'époque de Jésus. Et c'est justement sur ce thème de la pureté et de ce qui rend impur ou pas que Jésus va surprendre tout son petit monde de l'époque et en fait tout chambouler. En fait, quand on y réfléchit, c'est ce qu'il a fait de mieux. C'est tout mettre sur sa tête, tout renverser. Et on va prendre un premier texte où justement il va recentrer la problématique de la pureté et de l'impureté sur ce qui est vraiment important. Jésus appela la foule à lui et dit « Écoutez-moi et comprenez bien, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'homme impur. » Et un deuxième texte juste derrière. Jésus dit, donc c'est un peu plus loin, « Vous aussi, parce que ses disciples l'interrogent, sinon nous n'avons rien compris à ce qu'il a raconté. » Jésus lui dit, leur dit « Vous aussi, vous êtes encore sans intelligence ?» Ne comprenez-vous pas encore que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est évacué dans les toilettes. Enfin, ça, c'est la traduction moderne. Toilette dans le grec, c'est difficile à trouver quand même. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Et on pourrait éventuellement allonger la liste. Jésus ici donc redéfinit l'origine de l'impureté. Et par là même, il nous dit ce que nous devons garder pur, conserver pur. Et selon Jésus, c'est notre cœur qui est impur. Et c'est donc lui que nous devons garder. Il ne s'agit donc pas, comme le pensaient les chefs religieux de l'époque, de se garder de certains contacts extérieurs, mais bien d'apprendre à se garder de l'intérieur. C'est important ce que Jésus dit, comme toujours, vous me direz. Parce que le même Jésus a dit en Matthieu 5, dans le plus grand enseignement qu'il ait donné pendant sa vie terrestre, « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Ce qui implique que ceux qui n'ont pas le cœur pur ne le verront pas. Alors je sais qu'on a beaucoup brodé sur les béatitudes, je ne vais pas donner un enseignement sur les béatitudes, je vous rassure, mais quand on lit les béatitudes, chaque fois, c'est symptomatique. Souvent, on se dit, oui, mais ça, c'est la loi du royaume quand Jésus sera venu. On vivra ça. J'aimerais bien, moi aussi, dire que c'est la loi d'un truc qui n'est pas encore arrivé, que je pourrais vivre quand je serai parfait, mais ce n'est pas ce que Jésus dit. Il attend qu'on vive ça maintenant. Le sujet semble donc revêtir une certaine importance et pourtant il a perdu, je le disais, aujourd'hui de sa pertinence, même dans l'Église. De nos jours, on n'en parle quasi plus. Cela semble être une problématique d'un autre temps. La pureté du cœur est tombée en désuétude. Elle a été frappée d'obsolescence non programmée. Il semble en fait que lorsqu'on parle de pureté de cœur, on fasse référence à une sorte d'extraterrestre, quelqu'un qui ne serait pas tout à fait humain, une sorte de rescapé de l'ère puritaine victorienne, où là, il faisait extraordinairement bien semblant d'être tous purs, alors qu'il ne l'était pas. Alors qu'au contraire, un homme au cœur pur est un homme purement humain, comme Dieu l'entend, quelqu'un rendu en fait à sa véritable humanité. Quelqu'un qui devient un homme ou une femme selon le cœur de Dieu. C'est ça, quelqu'un qui a un cœur pur. Alors quel est le problème ? Qu'est-ce qui fait que la plupart du temps, nous soyons impurs, que notre cœur soit impur ? Ben, je pense que c'est notre ami Jacques, sa lettre n'est pas très longue. Hein. Et ne lisez surtout pas Jacques quand vous n'êtes pas bien, parce que vous irez encore plus mal, sans doute. Quoique, voilà ce qu'il dit Jacques, chapitre 4, verset 8 de sa lettre. « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Ça, c'est très juif. Hein. « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » C'est ce que Jacques dit, « Ne vous attendez pas à ce que Dieu s'approche de vous si vous ne vous approchez pas de lui. Hein. » Nettoyez vos mains, les mains étant la symbolique pour les juifs, d'une vie où on ne commet aucun acte en décalage avec ce que Dieu demande. C'est pour ça que les Juifs levaient les mains, pour dire « Regarde, Seigneur, mes mains sont propres de tout péché, de tout acte délictueux. Purifiez votre cœur, homme partagé. » Apparemment, la fonction, la responsabilité de purifier notre cœur nous incombe à nous, en grande partie. Ça, c'est intéressant. On aurait plutôt tendance à dire « Seigneur, purifie mon cœur. » Je ne veux pas que vous ne pouvez pas prier pour ça, hein. Mais là, Dieu dira, vous répond, moi je suis d'accord avec toi, mais ça va être un peu ta responsabilité de purifier ton cœur. Ce que Jacques nous dit ici, c'est que l'opposé de cette condition de cœur pur, de cette condition de non contaminé, de ce cœur pur, libre de tout péché volontaire et purifié de ceux qui ne connaissent pas par l'acte de la repentance, est ce que Jacques appelle dipsoukos dans le grec, c'est important. Qui signifie littéralement esprit double, âme double, cœur irrésolu, indécis ou âme divisée. Parce qu'un cœur double, il va comme ça, et un cœur divisé, il va comme ça aussi. D'accord ? Mais vous pouvez traduire des deux façons, à la limite. Dans certaines traductions, d'ailleurs, comme celle-ci, on parlera d'homme partagé. Mais Jacques parle ici de notre cœur ou de notre âme, qui dans la pensée biblique est quasi interchangeable. On pense sans doute, en lisant ça, qu'on a peu écrit sur le sujet. En fait, je le regrette, hein, mais pendant les 5 premiers siècles de l'histoire de l'Église, les pères de l'Église n'ont quasi écrit que là-dessus. Aujourd'hui, on parle plutôt de, vous le savez, hein, comment élèverai-je mes enfants dans la crainte du Seigneur ? Comment puis-je être heureux en couple ? Ça, des rayons entiers. Comment apprendre à avoir un cœur pur ? Tout le monde s'en fout. Mais c'est pour ça que l'Église va mal. Hein. Parce que des parents qui ont un cœur pur, le problème de l'éducation des enfants disparaît. Hein. Vous ne pouvez que bien éduquer vos enfants si vous avez un cœur pur devant Dieu. Parce qu'il y a des choses qui vont émaner de vous parce que vous possédez ce cœur pur. Voilà ce qu'écrit François Fénelon, vous connaissez, hein, théologien catholique français. Il est beau, hein ? Il était évêque aussi en passant. Malheur à ces âmes timides et fragiles qui sont partagées entre Dieu et le monde. Elles veulent et ne veulent pas. Elles sont déchirées par le désir et le remords en même temps. Elles ont le mal en horreur et ont honte du bien. Elles possèdent les douleurs de la vertu sans en goûter les douces consolations. Oh, comme elles sont, je fais oh parce que c'est dans le caisse, hein. Oh, comme elles sont divisées, ces âmes. Jacques, toujours lui, utilisera d'ailleurs un peu plus loin une image, un peu avant plutôt, une image très parlante pour exprimer l'attitude des personnes souffrant de ce mal. Il va les comparer à une vague que la mer soulève et pousse d'un côté à l'autre. Ceux qui ont été un peu à la mer connaissent ce phénomène. Hein. Quand il y a du vent, la vague part d'un côté, puis un coup de vent, elle repart de l'autre. Et Jacques dit, si vous avez le cœur double, l'âme divisée, vous êtes comme cette vague. Vous allez dans tous les sens. Alors je pense qu'il nous arrive de croiser dans la vie réelle, de tous les jours ou même par information interposée, il nous arrive de croiser une personne dont la vie peut se résumer à une seule chose. Une personne concentrée sur un objectif et organisant sa vie pour atteindre ses objectifs. C'est pas de ça qu'on parle, hein, mais c'est quand même intéressant. D'ailleurs, le nom de certaines personnalités publiques peut être aisément associé à l'objectif en question. Donald Trump, objectif, l'argent. Même la politique, hein, c'est pour le pognon. Je suis un peu réducteur en disant ça, mais ce bon Donald ne m'en voudra pas. Il serait même probablement fier de ce que je suis en train de dire de lui. Napoléon, pouvoir, d'accord. Evita Perón, pour ceux qui ont un peu de culture, ancienne femme du président de l'Argentine, les chaussures. Elle avait plus de 8000 paires. Connaissez la comédie musicale Don't Cry for Me Argentina, connaissez pas? Voilà. Eddie Merckx, la victoire. Oui, le vélo aussi, parce que sans vélo, pas de... Yannick Noah, la défaite. Oui, bon, je sais, j'ai pas pu m'empêcher. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père et je vous assure, je ne serai pas mis avec les Français, ça c'est sûr. Chantal Goya, la persévérance. Ben, il faut le faire quand même à 85 ans. Hein. Mais les premiers rangs sont inoccupés à ces conseils. Je ne sais pas si vous savez, pour les inoccupés, parce que les enfants auraient trop peur. Dans le film Les Apprentis Cowboys, qui est un navet hors catégorie, hein, nous sommes bien d'accord, et ne allez surtout pas louer la cassette, ça ne vaut pas la peine, mais quand même. Ma femme dirait, mais comment tu vas trouver ça dans les films? Enfin bon, j'ai un esprit assez analytique. Dans ce film, qui met en scène Billy Crystal et Jack Palance, Billy Crystal, donc le gars de gauche, incarne un homme dans la trentaine qui a le vague sentiment que sa vie est en train de lui filer entre les doigts. Jack Palance, lui, incarne un vieux de la vieille, un vieux cow-boy, possédant la sagesse qu'acquiert celui qui a tout connu. Et lors d'un dîner en tête-à-tête, le premier demande à l'autre, quel est le secret de la vie? Cette scène est la seule drôle, vraiment drôle du film. Et là, Palance, vous voyez, il a des... Moi, j'ai des valises en dessous des yeux, mais lui, c'est des wagons de train, quoi. Quel est le secret de la vie? Et Palance le regarde, se rapproche de lui et fait ceci. Et l'autre lui dit, quoi, ton doigt, c'est le sens de la vie? De Billy Crystal. Hein. Et Palance dit, non, c'est une chose. Le secret de la vie, c'est poursuivre, c'est rechercher une seule chose. Je trouve ça interpellant. Vous allez me dire que 2 heures de film pour arriver à ça, c'est triste, hein, mais... En tout cas, c'est interpellant pour le personnage de Billy Crystal, dont la vie est éclatée. Il est déchiré entre ses obligations familiales et son désir de réussite professionnelle, et les deux sont difficilement compatibles. Entre son besoin de sécurité et son appétit d'adrénaline, il est divisé. Sa vie tire dans tous les sens, et en fait, comme elle tire dans tous les sens, sa vie n'a en fait aucun sens. Alors, quelle est cette chose unique à rechercher? Jack Palance, dans le film, ne peut pas lui dire, il se contentera de lui dire, tu dois le découvrir par toi-même. Vous vous rendez compte, Jack Palance, philosophe. Søren Kierkegaard, notre ami du début, voyait dans l'âme divisée la maladie fondamentale de l'être humain. Je pense qu'il a raison. Donc Kierkegaard, dans son livre « La pureté du cœur, c'est de désirer une seule chose », est d'ailleurs une réflexion sur ce qu'écrit Jacques, en ce verset 4, chapitre 4, verset 8. La maladie diagnostiquée par Kierkegaard est l'échec à atteindre ce qu'il appelle la simplicité, autrement dit avoir une vie intégrée, concentrée sur une seule chose. C'est l'échec, dit-il, à s'engager résolument pour le bien uniquement, ce que Jésus appellera rechercher d'abord le royaume de Dieu. Il continue, et toutes choses vous seront données en plus. Mais ces choses ne viendront pas, en tout cas ne viendront pas de Dieu, on peut se les accaparer par nous-mêmes, mais ces choses ne viendront pas de Dieu si nous ne concentrons pas sur le fait de rechercher une seule chose, en tout cas dans la pensée de Jésus, vous êtes bouddhiste, forcément vous n'êtes pas concerné, dans la pensée de Jésus, c'est rechercher d'abord, premièrement, le royaume. Alors l'ennemi de la simplicité, il y en a deux en fait, il y a deux ennemis. C'est la multiplicité, ça n'étonnera personne, et, ça c'est plus grave, la duplicité. Alors je vais définir, hein, rassurez-vous. Alors définition de la multiplicité, c'est le caractère de ce qui est en très grand nombre et présente une grande diversité. Ça va? Suivez? Je dis tout ça à partir de Kierkegaard, hein, donc il fallait quand même que je simplifie. La multiplicité est le symptôme d'une vie marqué par l'ambivalence, repensez à la vague, hein, l'ambivalence, par ce que Jacques appelle être poussé d'un côté à l'autre. On est ambivalent, on n'est pas centré, on n'est pas simple du tout, on est même plutôt complexe. Saint Augustin, que vous connaissez très bien, je suppose, en parle dans son livre « Les Confessions ». Par contre, ce livre-là, il faut éviter, quoi, je pense. Parce que 800 pages pour pleurer sur ses péchés alors qu'il ne connaissait pas Dieu à l'époque. Mais il y a par contre des petites perles. C'est comme souvent dans les perles de l'Église, il faut se taper le volume en entier pour un moment tomber sur un truc, dire « Waouh, ça c'est extraordinaire ». Donc Saint Augustin en parle bien de ce problème dans son livre « Les Confessions ». Lorsqu'il explique qu'il aspire à la pureté, par exemple sexuelle, et n'est pourtant pas encore prêt à changer de style de vie, tout simplement parce qu'il redoute de la perte du plaisir lié à l'acte sexuel. On peut comprendre, hein ? Parce qu'il est lié, il a une vie dissolue, Saint Augustin, avant de rencontrer Dieu. Mais c'est parce qu'il rencontre Dieu un moment que tout ça, ça s'en va, vous le savez comme moi. Il doit apprendre à être raisonnable, rationaliser sa pratique sexuelle, et il a du mal à faire ça. Et il exprimera ce ressenti, cette dualité, par une prière adressée à Dieu, et qui est restée célèbre, puisqu'elle est dans ce livre. « Seigneur, donne-moi la chasteté, mais pas tout de suite. » Alors parfois, on ne le dit pas quand on prie. Mais la deuxième partie de la phrase, « Seigneur, donne-moi d'être chaste. » Mais lui, il voit le reste de la phrase dans le cœur. Et dans le cas de saint Augustin, cette deuxième partie de phrase, elle fait quoi? Elle souille son cœur, parce que sa prière est ambivalente. Rappelez-vous la semaine passée, quand Jacques dit « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez » pour assouvir vos plaisirs. Vous servez de Dieu comme un distributeur automatique de plaisirs, de choses que vous pensez, dont vous pensez avoir besoin. Ça me fait penser à une jeune fille de 17 ans, il y a des années de ça, récemment convertie, et qui me semblait un jour fort soucieuse, mais fort soucieuse. Quand je lui ai demandé de me dire ce qui n'allait pas, elle m'a répondu, « Je suis contente d'avoir rencontré Jésus, ça partait bien, hein, mais j'aurais préféré le faire plus tard. » Comme ça, au moins, j'aurais eu le temps de m'amuser un peu. On a une drôle de vision de Jésus, tout de même. Jésus, c'est le couvent, quoi. J'aurais eu le temps de m'amuser un peu. Cœur divisé, cœur impur, âme ambivalente. Quand notre vie est multiple, nous désirons être intimes avec Dieu. Et nous fuyons cette intimité en même temps. Nous aspirons à être généreux, mais nous accumulons et nous convoitons. Nous tentons parfois d'agir en serviteurs de nos frères et sœurs et même de tous les autres, et nous sommes parfois dirigés par l'arrogance et nos propres intérêts. Même l'apôtre Paul, c'est tout dire, hein, a connu ce combat terrible qui fait rage en nous, puisqu'il écrit en Romains 7 « Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. » Même Paul, alors, quand j'ai lu ça la première fois, oh, je suis soulagé. Et ça ne m'a pas soulagé longtemps. Je me suis dit, ah, même lui, Seigneur. Ça, c'est pour la multiplicité. Premier ennemi du cœur pur. Le deuxième ennemi, il est encore pire. C'est la duplicité. Je vous donne la définition. Caractère de quelqu'un qui ne se montre pas tel qu'il est, qui présente intentionnellement une apparence différente de ce qu'il est réellement. La duplicité est un synonyme de la fausseté. La duplicité ajoute donc une note de fausseté dans notre comportement. Dans la duplicité, il y a une contradiction entre les raisons que nous donnons pour faire quelque chose et les véritables raisons pour lesquelles nous le faisons. Par exemple, nous cassons du sucre ou nous critiquons des gens quand ils ne sont pas là, forcément, on n'est pas assez courageux. Et on le fait pour se sentir, même si on n'est pas conscient, hein, pour se sentir supérieur à ces personnes. Mais nous sommes chrétiens, donc nous le faisons soi-disant dans le but d'être efficaces dans la prière. Tous ceux qui ont participé un peu à des réunions de prière d'église, pendant une heure, on fait un tour de table pour parler des problèmes des gens pour lesquels on va prier. Et en fait, pendant une heure, on déblatère sur le dos des gens. Et on les critique, et puis on met, si je suis aussi précis dans mes critiques, c'est parce que, comme ça, vous savez vraiment précisément pourquoi prier. C'est de la duplicité. N'oubliez pas l'adage. Hein. Quand quelqu'un n'est pas présent dans une pièce, on peut en parler, mais uniquement pour en dire du bien. Et s'il n'y a pas de bien à en dire, ça peut arriver, on ne dit rien du tout. Je n'ai pas plus facile que quelqu'un d'autre à faire ça, hein, puisque moi, je me sens souvent très supérieur. Voilà, ça, vous savez tout. Nous disons quelque chose d'humble, ça peut arriver. Hein. Mon Dieu, que je suis humble, c'est déjà foutu. Non mais vraiment, hein, ça arrive. Oh, qu'est-ce que je suis humble, c'est foutu. Ça va vite, hein. Mon cœur est nouveau souillé. Voilà. Nous disons quelque chose de humble, mais intérieurement, nous sommes simplement en train d'essayer d'impressionner tout le monde avec notre apparente humilité. Si nous sommes honnêtes un instant, je pense que nous possédons tous une part de fausseté en nous. Personne n'est vraiment ce qu'il ou elle semble être, je te vois, comme disait l'autre. Il y a quelques années, un homme, d'âge moyen, quarantaine d'années, s'est tenu debout durant le culte dans une petite église le long de la côte pacifique. Cet homme était très dévoué à son église. Il avait une famille et exerçait un ministère auprès des enfants. Il était aussi diacre, s'occupait de préparer le café et nettoyait les locaux après l'office. Ce dimanche-là, alors qu'il se tenait sur l'estrade devant toute l'église, il a fondu en larmes. Entre deux sanglots, il a dit à son église qu'il avait abusé sexuellement de ses enfants. En l'apprenant, sa femme l'avait mis dehors. Pourquoi ? Et il suivait une thérapie. Il n'était pas certain de ce qui allait se passer. On peut comprendre. Cet homme, un brave homme pour tous ceux qui le connaissaient, a dû confesser qu'il était pédophile. Pendant toutes ces années, il avait fréquenté l'église et pendant toutes ces années, il avait violé ses enfants. Il était une vague poussée par la mer. Alors, c'est une histoire vraie. Hein. Indépendamment du fait qu'il faut quand même beaucoup de courage pour avouer tout ça devant une église, il faut quand même le dire, et sans esprit de jugement de ma part, pas du tout, moi, il y a une question que je me pose. À quoi pensait cet homme en écoutant les sermons du dimanche matin ? Objectivement. À quoi est-ce qu'il pensait quand il chantait les cantiques ? À quoi est-ce qu'il pensait quand il donnait l'école du dimanche, quand il enseignait les enfants, quand il parlait de Jésus aux enfants, tous les dimanches ? Et plus loin encore, à quoi pensait-il en croisant le regard de ses enfants ? Alors, sans en arriver à de telles extrémités, hein, c'est un exemple un peu extrême, effectivement, je pense que la question nous est posée à nous aussi. À quoi pensons-nous ? La capacité de duplicité de l'être humain est tout simplement, et je parle pour moi aussi, hein, stupéfiante. La plupart du temps, celle-ci prend des formes moins dramatiques que pour cet homme, ça c'est sûr, mais elle est là. Elle est bien là. La capacité qu'a l'être humain de se tromper lui-même, en fait, parce que c'est de ça dont il s'agit, la capacité qu'a l'homme de se tromper lui-même est absolument invraisemblable. L'alternative à la duplicité, c'est donc une vie caractérisée par la simplicité, une seule chose, et apprendre à être une seule chose. Voici ce qu'a écrit Clifford Williams, un professeur de philosophie et auteur de nombreux livres sur la vie spirituelle. Nous possédons l'unicité, le cœur pur, le cœur non divisé, quand nous ne sommes pas ballottés d'un côté à l'autre, et lorsque nous agissons sans vouloir quelque chose de supplémentaire pour nous-mêmes. Nos motivations intérieures ne sont pas en conflit, elles pointent dans la même direction. Les raisons qui semblent être les nôtres sont effectivement les nôtres. Notre centre intérieur est unifié, notre posture publique y correspond. Il n'y a pas deux personnes. Ce que je dis, je le suis. Pour faire court, nous ne sommes pas divisés. Il y a dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs endroits où Jésus parle de cette problématique, mais il y a dans le Nouveau Testament un récit qu'on connaît bien, que j'ai déjà abordé à plusieurs reprises, même une fois tout un dimanche, j'ai tenté de développer le sens de ce récit. Et ce récit, c'est celui de Marthe et Marie. Vous vous rappelez ? les sœurs de Lazare, de l'ami de Jésus, et c'était ses amis aussi. Et chaque fois qu'il passait par Béthanie, il y passait quand même souvent quand il descendait de la Galilée vers Jérusalem, c'était un passage quasi obligé, il se rendrait chez elle, chez lui, et il passait du bon temps, il profitait de ses amis. Et un jour, il arrive avec ses disciples, on peut comprendre que ça fait du monde, ils sont minimum 12, et je pense que souvent, il y en avait plus que 12, on perd ça de vue, il n'y a pas que les 12, il y a les autres. Ça fait quand même beaucoup de monde à nourrir. Connaissez ce récit. Luc nous dit, quand il relate cet événement, que Marthe était périspao, en grec, distraite, par les nombreuses tâches du service. Et elle éprouvait du ressentiment pour sa sœur qui ne l'aidait pas. Sœur qui avait simplement choisi de ne pas être distraite, qui avait choisi de ne pas être désunifiée, qui avait choisi de s'asseoir au pied de Jésus, dans la présence de Jésus. Vous rappelez quelle fut la réponse de Jésus au reproche que Marthe lui fait, il fallait qu'un culotté, comme Jésus. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. Une seule chose est nécessaire. Si on plante sur le récit, ça me semblait être la présence de Jésus. Non ? Il faut comprendre qu'il y a un incroyable, sans qu'on n'y ait pas, on ne se rend pas compte de ça, mais il y a un incroyable soulagement à ne plus avoir l'âme divisée ou l'âme double. Il suffit de décider sur quoi se concentrera notre vie. Et par rapport à ça, est-ce qu'on va choisir d'être Marthe ? Je pense que nous sommes tous des Marthe, excusez-moi de vous le dire, et moi compris. Est-ce qu'on va choisir d'être Marthe ou est-ce qu'on va choisir d'être Marie ? Penser que Dieu va tout faire, quand je disais qu'à un moment, il attend de nous de purifier notre cœur, Jacques dit « purifiez votre cœur », c'est tout ce qu'il attend de nous, c'est cette décision. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse pour toi ? Je veux ça, Seigneur. Tu es prêt à engager ce qu'il faut là-dedans ? Ok. Tant qu'on ne le désire pas, mes amis, je vais être un peu cash, mais il n'y a rien, mais rien qui change. Rien. La bonne nouvelle, c'est que ça prouve que nous ne sommes pas des automates, des robots. La mauvaise, c'est que Dieu nous considère comme libres et responsables. Ça, c'est génial. Le seul problème, c'est qu'il y a justement un peu de responsabilité qui est liée à ça. Quand il évoquera les conséquences d'une vie divisée, Jésus va utiliser une parabole. En fait, cette parabole va tenir sur une phrase. Et il est très intéressant de relever qu'il enseigne cette parabole en rapport avec la vie de disciple, qui est, vous l'aurez compris, une vie de concentration sur le Christ et son royaume. Et on va prendre ce texte, c'est aussi dans l'évangile de Luc. Et c'est un peu avant l'épisode de Marthe et Marie, comme par hasard. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur !» Ça commence bien aussi, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. Donc tu ne sais pas me suivre où je vais, puisque je ne vais nulle part. Je me contente d'être. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord faire mes adieux à ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » C'est ça, la petite parabole qui tient en trace. « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Le contexte, je l'ai dit, c'est donc la proposition de service que font deux hommes à Jésus. C'était courant en Israël à l'époque que quand un rabbin, un maître, un enseignant commençait à avoir un peu de réputation, un peu de succès, beaucoup d'hommes allaient vers lui pour proposer d'être disciples. Parce qu'à l'époque, les rabbins, ils avaient une tête qui enflait. Plus ils avaient de disciples, plus ils étaient de grands rabbins. Jésus casse cette logique qui n'en est pas une. Ces deux hommes se proposent pour être disciples. Et un troisième, par contre, c'est Jésus qui lui demande de le suivre. Les deux premiers disent qu'ils veulent être son disciple. Quant à celui appelé par Jésus, il a apparemment des affaires à régler avant de le suivre. Après avoir adressé une parole personnelle à chacun d'entre eux, Jésus leur dit donc cette petite phrase. Celui qui met la main à la charrue Et regarde, en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Alors, j'ai déjà expliqué cette image, mais pour que vous la visualisez un petit peu, à l'époque, vous aviez, c'est moi qui explique ça, un citadin, un bruxellois. Je dégage la piste. Vous savez, le soc, qui était supposé faire le sillon, il fallait mettre tout son poids sur la charrue. Il fallait mettre tout, mais tout son poids, donc, vraiment, pour que le soc pénètre dans la terre et fasse le sillon. Imaginez que quelqu'un regarde en arrière. Dans quel état le sillon, vous croyez? Enfin, il n'y a pas de sillon. Et je mime bien les paraboles, hein, quand même. Vous avez compris? Allez, c'est bien. Je suis content d'être venu. S'il faut pas... Moi, quand je me suis formé en théologie, on ne m'a pas expliqué tout ça, moi. Il y a juste un de mes profs qui m'a dit un jour, mais tu sais, de temps en temps, il faut faire le saint. J'ai dit, ça, je peux faire. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière, c'est une phrase terrible, mes amis, quand même, hein, humour mis à part, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. On a compris l'analogie, je pense. Okay. Mais en fait, qu'est-ce qu'il leur dit, Jésus? Qu'est-ce qu'il leur dit? Que si l'on mène une vie double, multiple dans ses affections profondes, si on a un cœur divisé, malade, notre vie ne portera aucun fruit. Que si l'on ne s'applique pas à une seule chose, et ici pour notre Seigneur, c'est la vie du royaume, celle du disciple qui prend sa croix et qui le suit, le travail sera mal fait et nous serons malheureux. Ce n'est pas pour ça qu'on n'aura pas vraiment de bonheur, hein, mais nous serons intrinsèquement malheureux. Les sillons ne seront pas profondément formés dans la terre et aucune semence ne pourra y être plantée. Nous serons de mauvais ouvriers, nous ne serons pas de véritables disciples. Jésus redit, il le dit à d'autres endroits dans l'Évangile, « Vous ne pouvez pas me suivre à moitié. Ou vous me suivez, ou vous ne me suivez pas. » C'est vrai que, on entend « Ah, petit Jésus !» Moi, quand j'entends Jésus parler, moi, je trouve que c'est d'une radicalité terrible. Hein, terrible. En écoutant Jésus parler de regarder en arrière, j'ai pas pu m'empêcher de penser à la femme de Lot. Comme quoi on traverse parfois l'écriture. Hein. Rappelez de la femme de Lot. Dieu dit à Abraham qu'il va détruire Sodome et Gomorrhe. Alors Abraham intercède. On a vu ce texte il n'y a pas longtemps. Et puis, Dieu il décide de sauver Lot et sa famille. Donc Lot, sa femme et ses deux filles. Et la famille est évacuée, si je peux dire ça comme ça, par un ange de la ville de Sodome, juste avant sa destruction. Une seule consigne, avancer, regarder vers l'avant et surtout ne pas se retourner en arrière. On connaît l'histoire, la femme de Lot s'est retournée et le texte dit qu'elle a été transformée en statue de sel. Je ne sais pas combien de temps elle est restée comme ça. Quand ils ont construit la ville, c'était plutôt sympa d'avoir du sel sous la main. Mais bon, à part ça, pour la femme, c'est quand même assez dur. Alors, la question que je me suis toujours posée, encore une, vous me direz, est pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'elle s'est retournée ? Je pense aujourd'hui, c'est très prétentieux, je pense aujourd'hui avoir la réponse à cette question. Ça doit vous rassurer, hein, je suis chrétien depuis 30 ans. J'ai eu la réponse il n'y a pas longtemps. Je pense que c'est la réponse. Elle s'est retournée parce que son cœur était resté à Sodome et Gomorrhe. Son cœur était là-bas. Ah, elle allait par là, mais le cœur, il était là. Son cœur était double, mes amis. Elle y avait laissé une bonne partie de ses rêves et de ses affections dans cette ville qui allait être détruite. Avec un cœur comme celui-là, elle ne pouvait que se retourner et regretter ce qu'elle laissait derrière elle, malgré le salut que Dieu lui offrait. Actualisez ça dans vos vies. Hein. Malgré ce que Jésus a fait, on regrette. On ne va pas le dire à l'Église, hein, on a peur d'être jugé. Mais qu'est-ce qu'on regrette? Chaque fois que j'ai un conseil, je regrette. Putain, je devrais être là, moi. C'est super, hein? Non? Son cœur était dur, mangé par l'influence de cette grande ville, éloignée, elle, du cœur de Dieu, ça c'est sûr. La statue de sel en laquelle elle est changée est une terrible image de notre cœur quand il se ferme à ce que Dieu veut y faire. quand il refuse de prendre son seul plaisir en Dieu. En fait, la femme de Lot est restée figée à l'endroit que son cœur refusait de quitter. Et c'est valable pour nous. Là où je suis bloqué, là je reste et je suis statufié. Vous mettrez les circonstances personnelles s'il y en a, chacun pour soi-même. Moi, j'ai essayé de faire ce travail. J'ai passé une chouette semaine. L'âme de la femme de Lot était divisée, comme était celle de ces trois garçons qui désiraient suivre Jésus, mais à leurs conditions, à eux. On ne met pas de conditions à Dieu. Ça n'existe pas. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'il est Dieu. C'est simple. Je pense que nous savons tous ce que cela signifie que d'avoir une âme divisée. Nous savons tous ce que c'est que d'être une vague de la mer, d'être poussé vers la vie que Christ nous appelle à vivre et d'être retenu en même temps par un péché tenu secret, par exemple, auquel on n'a pas encore renoncé ou pour lequel on n'a toujours pas décidé de demander de l'aide. Et on crève avec. Et on est coincé à cet endroit-là. Nous aspirons à être des disciples, ça j'en suis sûr, de temps en temps, quand le vent souffle dans la bonne direction. Mais nous ne sommes pas prêts à renoncer au confort de notre chaise longue. Nous aimerions tellement être humbles, mais que se passerait-il si personne ne le remarquait ? C'est pour ça que j'ai arrêté d'essayer de l'être. Je plaisante. Quoique. Jésus nous dit, c'est une vie misérable que cette vie-là, si c'est celle-là que vous menez. Et c'est pour ça qu'il refuse qu'on le suive en étant habité par ce cœur-là. Il dit, vous allez être malheureux. À un autre endroit, il dit, calculez la dépense avant de me dire, vous allez être mon disciple. Parce qu'il faudra aller jusqu'au bout. Prendre la croix, beaucoup disent, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, c'est idiot. Pourquoi est-ce qu'on cherche une croix, mes amis? Dans quel but quelqu'un prendrait une croix sur son dos? Il y a un seul but à ça, un seul objectif, aller se faire crucifier. Ça sert à ça, une croix, rien d'autre. On ne peut pas le suivre à demi, ça n'est pas possible. Ça fait 2000 ans que l'Église essaie de faire ça. Vous avez vu le résultat? L'Église, c'est nous, je vous rappelle quand même. Enfin, une petite partie, quoi. C'est une vie misérable, nous dit Jésus, que cette vie-là. Qu'une vie alimentée par un cœur divisé. Le secret de la vie, c'est de rechercher une seule chose. Alors, si vous êtes quelqu'un qui recherche une seule chose, demandez-vous si c'est la bonne, déjà. Je pense que ça, c'est important. Parce que je l'ai dit, Trump, c'est le pognon. Voilà, il y a moyen d'être vraiment concentré. C'est pas ça le cœur pur, bien entendu. C'est parce que Trump et le cœur pur dans la même phrase, ça fait un peu bizarre quand même. Alors la semaine prochaine, parce qu'il y a une bonne nouvelle quand même, la semaine prochaine, nous verrons comment être sauvés dans nos âmes doubles et surtout la place que prend le rapport à la Bible. Quel rôle joue en fait l'Écriture dans ce travail de transformation? Et je terminerai par un simple verset pour vous encourager. Je suis gentil quand même. Ce verset il est tiré d'une des lettres de Paul. Où il dit, mon corps, je paraphrase, mon corps physique se détériore, se détruit tous les jours, de plus en plus, normal. Mais mon être intérieur se renouvelle de jour en jour. Il faut accepter ça. C'est que ce cœur pur, c'est un processus. Votre vie intérieure, c'est un processus. On a tous compris ça. Dieu n'a pas fait ça. Par contre, tous les jours, il faut comprendre que Dieu, son objectif, c'est de travailler à notre transformation. C'est le fondement de la prière de Jésus au quotidien pour chacun d'entre nous. Père, change-les, transforme-les, donne-leur mon cœur à moi. Je l'ai souvent dit, le seul truc qu'on emmènera à l'étage auprès de notre Père, c'est ce qu'on sera devenu. Rien d'autre, le reste c'est du cirque, mes amis. Amen.